6h03 exactement. Je vous souhaite une excellente journée. Bienvenue au 98.5 FM. Côté météo, quand même, les prévisions sont bonnes pour les 48 prochaines heures, c'est-à-dire qu'on a eu un peu de neige au cours de la nuit, mais température hyper confortable. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'opérations de déneigement, ça paraît ce matin, puis en plus, ça a fondu. Et quand je suis arrivé, ça indiquait là, autour de moins 1 degré. Alors, c'est du soleil tôt ce matin, avec quelques nuages et toujours quelques flocons potentiels durant la journée. Des vents jusqu'à 30, 40, 50 km/h aujourd'hui. Et ça va demeurer stable autour de moins 4 degrés. En soirée, durant la nuit, c'est nuageux, mais ça se dégage. Et quand le ciel se dégage, le mercure tombe. On prévoit moins 14 cette nuit. Et demain, vendredi, pour terminer la semaine, c'est du soleil moins 4. Et l'aperçu pour le week-end, samedi, de la neige, de la pluie, ça pourrait tomber sous les deux formes parce que on va atteindre 5 degrés. Je répète, 5 degrés pour samedi. Et ça se maintient pour dimanche, ensoleillé, 5 degrés. Donc, un assez beau week-end, surtout dimanche, là. Puis des températures vraiment pour aller à l'extérieur. On commence ce matin par cette prise de rendez-vous pour les vaccins à compter de 8 heures pour les personnes de 85 ans et plus. Je rappelle que l'aidant naturel peut se faire vacciner. Il faut l'inscrire en même temps. C'est dans le formulaire et il faut que la personne ait 70 ans et plus. Ça, c'est la première chose. Donc, on verra ce matin si le système résiste à la vague qui va déferler. Hier, je vous le disais, sans doute un concours de circonstances. Peut-être qu'ils sont en période d'ajustement, mais on a testé le système, pas pour le vaccin, mais pour dépistage COVID. Et après avoir entré le code postal sur le portail Clic Santé, ben, on était dirigé, on nous suggérait des centres de prélèvement, là, genre à 90 km, Louisville, Drummondville, Trois-Rivières. Bon, de toute évidence, il y avait un problème. Donc, on verra ce matin, quand vous allez sur le portail, on vous indique que la plupart des centres ne sont pas ouverts. Je rappelle que c'est à 8 heures ce matin. Et que, donc, vous allez pouvoir prendre quand même votre rendez-vous, à la fois pour la première dose et en même temps pour la deuxième. Toujours possible de le faire au téléphone. Et là, il y a tous les cas qui, depuis je dirais 24 heures, là, 36 heures sont soulevées. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont seuls, des gens isolés, des gens pour qui c'est bien compliqué se déplacer, ils n'ont pas d'aidant naturel. Là, la version de Québec, c'est que les organismes, c'est-à-dire l'État, avec l'aide d'organismes, doit s'occuper de transporter les personnes. En même temps, il y a une responsabilité, je dirais, de famille ou de voisinage. Si vous avez quelqu'un de votre entourage pour qui c'est difficile. Puis je comprends là, qu'il y a des gens qui sont peut-être handicapés, mais en même temps, s'ils sont dans leur appartement, ils doivent être assez fonctionnels. Mais pour qui c'est difficile s'inscrire, ils n'ont pas Internet. Alors, il faut peut-être s'aider dans ce sens-là. Et la raison pour laquelle on hésite, en fait, pas qu'on hésite, mais qu'on ne peut pas se déplacer de porte en porte, c'est la nature même du vaccin de Pfizer. Il paraît que Moderna, moins compliqué, ça pourrait peut-être se faire. J'écoutais Anne-Marie Dussault hier, il y avait une entrevue avec quelqu'un en Suisse où ils ont organisé la vaccination à domicile pour les gens là, qui ne pouvaient pas se déplacer. Alors, peut-être que ça peut se faire, mais ça suppose quand même une logistique assez importante. Alors, c'est le premier test de la machine ce matin. Deuxième chose, comme c'est souvent le cas, le gouvernement Legault lance dans l'univers une information pour la confirmer 24 heures ou 36 heures plus tard, là. C'est le cas des masques obligatoires pour les enfants du primaire. Et ça, c'est prévu pour le retour après la relâche. Et donc, c'est vrai, là, pour tous les enfants, en tout temps, sauf pour ce qui est des maternelles 4 ans et 5 ans qui seront exemptés. Donc, les enfants devront porter le masque. Et le masque sera fourni par le gouvernement. C'est un masque, entre guillemets, pédiatrique, là, ajusté, qui n'est pas trop grand et qui devrait faire aux enfants, 3 millions de masques par semaine pour ce qui est de la grande région de Montréal. Et les élèves vont en porter 2 par jour. Ils vont pouvoir changer, comme c'est le cas au secondaire. Et il y aura, ça c'est pour Montréal, puis les zones rouges, ça va suivre également. Et là, je peux vous dire que depuis hier, là, depuis que ça circule, il y a des parents qui ne veulent rien savoir de ça. Et mais quand je dis rien savoir, là, je vais vous donner juste un exemple qui traduit peut-être une vingtaine de courriels que j'ai reçus de différents parents. Monsieur Arcand, j'ai toujours été pour le respect des mesures sanitaires depuis le début depuis cette décision concernant le port du masque obligatoire en tout temps à l'école primaire. Je désapprouve cette future décision. Ma fille est en première année. J'anticipe les conséquences négatives pour les suites de son éducation. Ça va trop loin et je me questionne sur la gestion du gouvernement. D'autres qui disent que leur enfant ne sera pas confortable avec ça, que des enfants doivent pouvoir respirer, avoir le visage libre. Il y a une question d'interaction avec les autres. Alors, la santé publique et le ministère de l'Éducation, d'une même voix, décident d'y aller de cette mesure additionnelle. Pourquoi? Ben parce qu'il y a les variants, puis qu'on a des foyers d'éclosion dans les écoles. Le nombre demeure relativement bas, je dis bien relativement, mais on connaît la caractéristique des variants, c'est que ça peut se propager très vite. Et c'est pour ça qu'on n'hésite pas actuellement à fermer des écoles. Alors, comme on sait que les règles seront, disons, un peu contournées pendant la relâche, bien là, on veut imposer le port du masque. Pas ce que vous en pensez comme parent, comme enseignant, mais il va y avoir un peu de résistance, j'ai bien l'impression, de parents. Remarquez qu'ailleurs, dans certains pays, là, c'est normal, c'est dans les us et coutumes, puis il n'y a personne qui s'interroge trop. Ici, c'est sûr que c'est un changement dans l'éthique respiratoire puis du vivre en société. Mais comme le disait le docteur Fauci un peu plus tôt cette semaine, même s'il y a le vaccin, même si tout le monde finit par obtenir les deux doses, fort à parier que le port du masque va perdurer, par exemple, jusqu'en 2022 et même un peu plus. Donc, on va essayer de vous donner d'autres informations là-dessus et l'annonce devrait se faire. Puis je parlais des vaccins. Ajoutons un élément. Parce que là, les sondages nous indiquent que les gens veulent se faire vacciner, la très grande majorité. Je regardais ce matin ce sondage. CROP, qui envoie un message au gouvernement Trudeau, qui est dans la presse, là. On ne veut pas d'élection, là. On semble, du côté des stratèges libéraux, regarder un scénario genre avril-mai ou pour des élections en juin. Et une majorité de Québécois se disent d'abord, à 70 % au total, peu ou pas satisfaits de la gestion de M. Trudeau concernant la campagne de vaccination. Puis les gens lui disent « Occupe-toi des vaccins, puis laisse faire les élections. On n'a pas envie d'aller voter dans cette période de pandémie. » Et quand vous posez la question aussi pour ce qui est de l'idée d'avoir des vaccins, il semble en tout cas que les gens veulent se faire vacciner. Un nombre croissant de Québécois ont l'intention. Au mois d'octobre, on parlait de 70 % des gens qui voulaient se faire vacciner, puis 81 % pour ce qui est d'aujourd'hui. Donc, c'est quand même là assez impressionnant comme réponse à l'idée de se faire vacciner. Et d'ailleurs, qui est à partir d'une polémique de bonheur le matin, faisons-le, là, c'est assez étonnant que des gens qui sont dans le réseau de la santé refusent de se faire vacciner. On fournit des équipements pour les protéger, avec raison. On en a tellement manqué le printemps dernier. Et là, tu offres le vaccin pour éviter qu'il développe des effets secondaires, disons, sérieux, là. Il y a des gens qui sont dans le réseau de la santé qui ont quitté parce qu'ils ont été contaminés par le virus. Il y en a pour qui ça a bien été, bon, quarantaine, mais puis donc ça a été pas mal plus dur. Hier, le ministre Dubé, puis je comprends que ça varie d'un endroit à l'autre, là. C'est-tu 20 % c'est-tu 30 % des employés du réseau de la santé qui ne veulent pas se faire vacciner? Dans certains cas, il paraît que ça peut aller même jusqu'à 40 % Mais c'est dur à comprendre. C'est un outil de protection. Ça te protège des effets les plus dévastateurs du virus, il me semble. Et puis, les différentes expériences dans le monde, puis même au Québec, démontrent l'efficacité du vaccin. Je comprends qu'il y aura toujours un noyau anti-vaccin, puis il y a des gens qui ont peur, bon. T'sais, d'avoir peur d'un vaccin alors que tu es directement sur la ligne de feu dans le réseau de la santé, j'avoue que c'est quand même particulier à suivre là, comme raisonnement. Je comprends qu'on ne peut pas l'imposer, on n'a pas un vaccin obligatoire, mais peut-être qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui vont se laisser, disons, convaincre de l'utilité du vaccin. Il y a un auditeur qui m'envoie un courriel, un bout du bon commentaire concernant les personnes âgées là, pour les amener se faire vacciner. Actuellement, les partis politiques sont pas payés pour les sortir, pour les faire voter. Hein. Habituellement, quand une personne âgée, le jour de l'élection, va aller voter, il n'y a pas trop de problèmes pour l'amener. Devrait être capable, mettons, de s'organiser. je veux vous parler du monde de l'éducation. Bon, la relâche s'en vient. Je vous parlais il y a deux instants des masques obligatoires pour ce qui est du primaire, en tout temps, après donc le congé. Et il y a toujours ces négos qui semblent traîner à longueur. On entend peut-être un peu moins parler depuis quelques jours. On sait qu'il y a des mandats de grève qui ont été votés. Puis il y a malheureusement souvent ces campagnes publicitaires abrutissantes d'une autre époque, complètement, je dirais, complètement archaïque. Je pense que c'est le mot, là. Tu sais, avec la voix, blablabla, mon gouvernement, ça marche plus, ces affaires-là, mais tant mieux. Ils décident d'acheter de la pub, puis go. Je pense que la meilleure façon de comprendre ce que vivent des profs, je parle à des parents, là, on va raconter l'histoire d'une enseignante qui a une expérience dans le réseau de 7 ans. Puis j'utilise son témoignage qu'elle m'a envoyé parce que je trouve que c'est bien intéressant puis que ça traduit pas mal la réalité. Elle dit « Je ne suis pas de celles qui ont perdu pied. Le fameux 25 % qui décroche dans les 5 premières années. J'adore enseigner, j'adore ma profession, mais la situation s'est tellement détériorée en 7 ans que ça en est pathétique. » A dit, évidemment, on veut améliorer nos conditions de travail. Qui voudrait le contraire? Mais on veut surtout améliorer la qualité de l'éducation puis des services qu'on donne aux enfants. Et là, elle me donne des exemples. Là, évidemment, comme c'est l'omerta partout dans le réseau public santé-éducation, on ne peut pas l'identifier. Et elle me donne des exemples de ce qu'elle vit. Je suis en troisième année du primaire dans une école. J'ai 26 élèves, trois avec des codes de langage sévères, avec quasi aucun accompagnement. C'est à peu près 4 heures par semaine. Puis quand l'élève fait une crise, ben, il n'y a plus de 4 heures. J'en ai plus 7. J'ai en plus 7 plans d'intervention d'aide. Imagine-toi, là, t'es rendu à 10 sur une classe de 26. Je cherche des commandites pour acheter du mobilier scolaire parce qu'on n'a pas assez de chaises de bonne hauteur pour mes élèves. C'est au Québec, ça. Et les pupitres sont tellement abîmées qu'on travaille en angle. Ça tient plus droit. Elle dit, je dis pas ça, là, je n'écris pas parce que je vais avoir une commandite. Elle dit, j'ai trouvé le mobilier. Il y a combien de profs qui font ça régulièrement? Début de l'année scolaire, pendant l'année scolaire. Il y a quelque chose d'une... Comment je dirais, là? Ça n'a pas de bon sens de se retrouver à demander à des profs de gérer l'achat puis la découverte de matériel. C'est pas tout, là. Il y a un élève qui, lui, mange pas. Mais là, on est aussi dans les codes. Quel est votre territoire? Quel est le code de votre école? Puis elle, ça tombe que son élève a faim. Mais ce n'est pas un milieu défavorisé, selon les codes qui sont émis par le centre de service. Et là, je vous parle pas des parents qui ne veulent rien savoir, des parents qui ne comprennent rien, des parents qui disent « arrange-toi avec les troubles ». Alors, elle, ce matin, elle dit « je vais arriver comme d'habitude 45 minutes plus tôt parce que j'ai pas mal de travail à faire ». Je trouvais que ça résumait beaucoup le travail des profs. Ben oui, il y en a qui ne sont pas aussi impliqués, passionnés. Il y en a d'autres qui le sont. Je pense que c'est la majorité des profs. Puis, tu sais, d'un côté, je trouve que vos syndicats utilisent des vieilles armes, des vieux moyens. Tu sais, les campagnes de pub, là, je ne prêche pas pour la paroisse ici, là, ils achètent du temps d'antenne. C'est tellement contre-productif. Ça ne vient pas convaincre de l'importance ou de la justesse, je trouve, des revendications. Alors, voilà pour ce qui est du monde de l'enseignement. Parlons maintenant de l'annonce hier du premier ministre responsable de la lutte contre le racisme, Benoît Charest. Bon, ce qu'on comprend, c'est que Lionel Carman, Nadine Giraud, n'étaient pas intéressés, ne voulaient pas pour toutes sortes de raisons. Et là, le grand débat hier, est-ce qu'un ministre blanc peut s'occuper de la lutte contre le racisme? Et là, j'oublie sa sensibilité personnelle, le fait qu'il y ait des enfants métissés, puis... J'aime pas l'argument de la conjointe puis des enfants, là, quand on veut expliquer la nomination de quelqu'un. Je trouve ça assez moyen, mais bon. Puis ça peut pas être non plus un argument qui milite contre cette nomination. J'écoutais ça hier, Puis je me disais, il y a beau me dire, M. Charrette, là, qu'il y a un adjoint parlementaire extraordinaire à l'environnement, puis un autre adjoint parlementaire extraordinaire pour la lutte contre le racisme. Il n'en demeure pas moins qu'on demande au ministre de l'Environnement de s'occuper de la lutte contre le racisme. Là, je comprends que les groupes verts qui disent c'est un emploi à temps plein, ça, si on est sérieux en environnement. Puis c'est un emploi à temps plein, d'autant plus qu'il faut prendre des mesures assez rapides, notamment concernant toute la politique du profilage. Alors, c'est sûr que tu regardes ça, puis les groupes, en gros, disent « Bien là, il faut donner la chance au coureur, on va voir ce qu'il va faire. » Mais c'est un drôle de message qu'envoie le gouvernement. T'sais, il me semble, si tu es sérieux, tu dis « Il y a une personne qui s'occupe de ça, puis c'est une personne qui est responsable, puis on sera en mesure de juger. » Mais là, tu sais, de dire « Toi, tu t'occupes à la fois du racisme, de l'environnement. » Mettons que c'est deux dossiers assez différents, là, et qui demande quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Et on va parler avec Will Prosper, qui, disons, a un certain nombre de doutes sur cette nomination. Je veux vous parler aussi de cette autre histoire de femme victime de violences conjugales assassinée à Saint-Hyacinthe, son ex-conjoint de 44 ans qui est accusé de meurtre non prémédité. Et elle s'appelle Nancy Roy. Lui s'appelle Jean-Yves Lajoie. Et donc, il a été formellement accusé. Ça se passe à Saint-Hyacinthe, dans des appartements. Ça s'appelle le Grand Château, sur la rue Giroir-Ouest, dans le centre-ville, si on veut, de Saint-Hyacinthe. Là, c'est assez connu. Et c'est un autre cas de violence conjugale où là, les gens de l'entourage, les gens qui habitent au même endroit, les membres de la famille, parlent. Puis disent quoi? Qu'elle avait peur de son conjoint, de son ex-conjoint. Il n'était pas le bienvenu dans la famille. Sa mère était inquiète. Quand t'es rendu, je lis ça, je pense, dans Le Devoir ou le Journal de Montréal ce matin, à appeler sa fille pour être bien sûr qu'elle est revenue chez elle puis qu'elle est en sécurité. Que les voisins disaient « Fais pas regarder sa blonde ou sa femme parce qu'il pognait un air. » Puis qu'il est en train de l'isoler, là. Tout ce qu'on entend tout le temps concernant les histoires de violence conjugale avec, en toile de fond, le refus de porter plainte, la peur de le provoquer, puis de se faire mal. C'est pas ce qui est arrivé dans le détail cette semaine, mais elle est morte, puis elle a crié à l'aide, disent les témoins. Et c'est encore une fois des cas où les policiers peuvent être appelés à intervenir, puis qui peuvent malheureusement pas faire grand-chose quand le danger n'est pas immédiat. Je dis ça, puis j'ai l'impression de répéter tout le temps, parce que c'est souvent, malheureusement, le type de témoignage qu'on entend. Dans le Journal de Montréal, ce matin, un mot pour vous dire qu'il y a du Viagra de contrebande. C'est pas nouveau, là, mais le marché noir a explosé, paraît-il, depuis 5 ans. Et qui dit marché noir dit souvent n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, là, il faudrait faire des analyses de ce qu'on retrouve. Il paraît que ce sont des jeunes, 18-40 ans, qui sont devenus accros et qui vont en acheter. Puis vous avez des gens qui, évidemment, les fabriquent. Puis là, vous avez toutes sortes de cochonneries. Il peut y avoir des produits toxiques à l'intérieur. Puis il y a une clientèle. Quand on avait fait Québec sur ordonnance, là, on avait acheté des médicaments sur le marché noir. On avait fait analyser des trucs. C'est épouvantable. Puis là, je parle pas juste de Viagra. Là, je vous parle de gens qui peuvent acheter un paquet de médicaments à qui on fait croire que ce sont les médicaments, là, réels, alors que c'est fabriqué par des espèces, ce qu'on appelle dans le milieu des cooks, qui cuisinent ces médicaments, des machines qui existent. Puis là, tu vends ça à des gens qui sont convaincus que c'est la grosse affaire, puis qu'ils ont ça pour, évidemment, pas cher sur le marché. Et un mot, juste en terminant, sur le sympathique fraudeur Ronald Weinberg de Cynar, cette entreprise mythique. Alors, Radio-Canada nous dit que M. Weinberg aurait soumis de fausses déclarations de revenus et caché des millions aux Bermudes et en Floride. Il soutient qu'il n'a rien à déclarer, que les fonds n'étaient pas à son nom. Il a été reconnu coupable de fraude contre les actionnaires de Cynar. Et là, il est dans le dossier de l'Agence de revenus du Canada. Alors, c'est une enquête menée par Enquête à Radio-Canada et The Fifth Estate. M. Weinberg, sa femme, a volé des droits d'auteur, qui avait fraudé, etc. Et là, le dossier est à la cour de l'impôt. Sympathique petit bonhomme, 6h24 minutes. Allons-y avec l'autoroute des Laurentides.